est et d'intervenir sur la population. Alors, il faut qu'il y ait essentiellement des intérêts économiques en jeu. Quand on dit intérêt économique, dans l'économie, on englobe aussi les dommages aux troupeaux domestiques, donc à l'économie agricole. Ça peut être les dommages à... je ne sais pas, enfin bon, ça peut...
Certains éleveurs demandent un avantage, quand le loup attaque le troupeau. Et dans la région, ils demandent des avantages.
Oui, alors j'y viens. Donc ça, de fait... il faut déjà, du coup, il y a quand même dans la directive Habitat, on appelle ça, de 1992, elle met la possibilité à chaque État de prendre des dispositions pour pouvoir intervenir sur la population de loups. Et pour ça, il y a trois critères importants. Il faut déjà qu'il y ait vraiment des dommages occasionnés qui soient avérés provenant du loup, dans le cas présent, hein, pour cette espèce-là. Parce que si c'est les chiens domestiques ou si c'est autre chose, ça n'entre plus en ligne de compte. Donc, il faut qu'il y ait dommages avérés. Deuxièmement, il faut qu'il y ait mise en place de mesures de protection des troupeaux qui sont attaqués. À savoir que le ministère de l'Agriculture va mettre en place ou des surveillances avec des bergers supplémentaires ou des enclos, ou des effarouchements, enfin bon, il y a un tas de dispositions que le ministère de l'Agriculture va mettre en place. Si on n'a pas fait ça, on n'a pas le droit d'intervenir. Et en troisième lieu, les mesures qui sont prises par le gouvernement ne doivent pas mettre en péril la population animale. À savoir que si on prélève un loup, il ne faut pas que la population française soit en difficulté derrière ça. À savoir que si, par exemple, le ministère autorise en Aveyron à tuer 5 loups, c'est pas le cas. Hein. Je crois que ce qui a été autorisé il y a 15 jours, c'est 2 prélèvements, si j'ai bon de mémoire, à vérifier. Mais s'il y a plus que 2 loups en Aveyron et qu'on tue les 2 loups, on ne va pas mettre en péril la population française. On va peut-être mettre en péril la meute elle-même, mais la population française ne va pas être mise en péril. Ce qui fait qu'au niveau de la loi européenne, on n'est pas fautif d'avoir fait un abattage de 2 loups dans ce cas-là. Donc la possibilité, elle existe. Et du coup, en France, depuis 2004, jusqu'à maintenant, on a eu des autorisations. On a commencé par 4 loups autorisés. Et maintenant, on en est à 36, si je me souviens bien.
Voilà. Par an.
Par an. Alors par an, de juin à juin. Hein, donc là, on est encore dans la phase de prélèvement autorisé de l'année dernière, du 1er juin ou du 1er juillet au 30 juin, je crois que c'est ça. Et là, actuellement, se négocie actuellement dans le groupe national loup, en présence des syndicats agricoles, des divers partis écologistes, enfin, etc. Il y a un groupe, une cinquantaine de personnes, où on se réunissait, enfin moi je n'y participe plus, mais j'y participais en tant qu'expert pour le compte du ministère de l'Environnement, où on débat des intérêts des uns et des autres, et il faut qu'on rentre dans ces clous. Voilà.
Oui. Ouais, j'ai deux questions. La première, vous avez dit que la deuxième condition, c'est que l'État aide...
L'État ou les éleveurs, oui, mettent en place...
C'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes personnes qui financent, en fait. Donc, est-ce que quand vous dites l'État aide, l'État met en place la surveillance, ça veut dire qu'il finance des emplois ?
Oui, des emplois ou du matériel ou des mesures d'effarouchement.
D'accord, mais c'est eux qui financent.
J'ai l'exemple concret là sur Nasvinal, la commune de Nasvinal en Lozère. Il y a eu en septembre 2013 3 brebis une qui a été tuée et 2 autres blessées. Et donc le propriétaire qui par ailleurs avait un centre équestre, ça a été attesté loup, attaque de loup, il a bénéficié d'entrée de mesures de protection, c'est-à-dire qu'on lui a payé 2 patous, si j'ai bonne mémoire, plus des croquettes du patou, plus un enclos, d'ailleurs il était surpris qu'on lui paye des croquettes, plus un enclos pour mettre ses brebis à l'abri, et ça faisait partie du package financé sur le plan loup. Alors je ne sais plus le volume, je ne sais combien c'est 12 millions d'euros, je crois, ou un truc dans le genre, non ?
Je n'ai pas le chiffre en tête. De fait, je dis que c'est l'État, parce que la plupart du temps, c'est l'État qui finance. Mais si un éleveur ne veut pas être financé, il peut le prendre sur, sur sa charge à lui. Voilà.
Non, mais c'est, donc, c'est pas anodin, ça, ce que vous venez de dire, parce qu'il y a effectivement des éleveurs qui refusent. Qui refusent ces mesures de protection, parce qu'accepter ces mesures de protection, c'est quelque part accepter aussi
la présence
du loup. Donc c'est un peu voilà.
C'est l'argument essentiellement des Pyrénéens par rapport à l'ours. Et il y a une, je ne sais pas s'ils ont, ça j'ai pu, parce que c'était un dossier relativement difficile également dans les Pyrénées, où les syndicats agricoles, d'une façon assez unanime, voire les politiques aussi locaux, demander aux éleveurs de refuser les subventions de protection ou de dédommagement, parce qu'à partir du moment où ils acceptaient ces subventions, ça veut dire qu'il fallait qu'ils acceptent la présence de l'ours. Donc ça, c'est au monde agricole à s'adapter à est-ce qu'ils veulent ou pas. L'État propose en tous les cas.
Voilà. Et donc la deuxième question, c'est ça.
Oui.
Il y a un gros problème par rapport à l'élevage qui est d'une certaine manière, on va dire, l'élevage extensif et l'élevage intensif industriel. De plus en plus de personnes refusent l'élevage intensif. Or, les personnes qui défendent l'élevage en bâtiment, etc., commencent à dire qu'en fait, on peut les mettre en bâtiment parce que c'est une manière de les protéger des problèmes d'être dans la nature. Et donc, en fait, paradoxalement, on est en train de nous vendre un élevage intensif en disant que c'est l'élevage intensif qui assure le bien-être animal. Et c'est quand même, pour le coup, c'est quand même un gros problème. Et comment on fait avec cette question-là, quoi ? Parce que moi, je suis venu ici sans idée préconçue. Je sais bien qu'il y a des animaux sauvages qui vivent et tout, et en même temps, il y a des populations qui vivent sur des territoires. Comment ces populations peuvent vivre avec la présence du loup, quoi. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait des réponses qui soient, j'aime pas le terme raisonné, mais sans affect, comme on parlait tout à l'heure, quoi. Qui soient, que les personnes puissent vivre sur le territoire. Et est-ce que c'est possible avec nous ?
Alors ça, c'est une question qui dépasse vraiment mon champ de compétences, parce que c'est du domaine de l'agriculture. C'est une question très juste, surtout quand on voit qu'une partie des moutons qu'on a dans les supermarchés ou autres viennent de Nouvelle-Zélande ou autres. Il y a de la concurrence. C'est vraiment un problème de société, là, et pas seulement un problème d'élevage. Hein. J'ai pas de solution, là, moi.
La réponse, comment ils vivent extrêmement mal, les éleveurs, parce que c'est un stress énorme. J'en ai vu sur Internet plusieurs reportages dans le Mercantour, par exemple, où le loup il est depuis 25 ans maintenant, et il y a des éleveurs au nerf, parce que ces attaques reviennent. Une fois tu perds 2, une autre fois tu perds 6, une autre fois, ça n'arrête pas. Et chaque fois il faut les ramasser le soir. Depuis le loup a disparu en France en 1930, il s'est installé un système d'agriculture et de pastoralisme qui n'est pas compatible avec le loup. On a établi un système qui a vécu sans loup. Et du coup, il y a le prédateur à nouveau. Et en plus, il est protégé. Et pour les éleveurs, il y a des gens dans la campagne, par exemple, qui disent que c'est le mort pour les petits paysans.
On entend dire beaucoup de choses justement sur ce que fait le loup. Est-ce que le loup, quand il attaque, il tue sans besoin ou il tue uniquement pour manger ?
Alors, le loup, contrairement à d'autres prédateurs, tue pratiquement que pour manger. Il est en contrepartie. Le problème de... Alors quand c'est sur la faune sauvage, on voit qu'il n'y a qu'une proie, Quand c'est sur les moutons, c'est un peu plus délicat, parce que des fois, il y a de l'affolement dans le troupeau, et le loup, si, surtout s'ils sont un petit groupe, une meute qui arrive, il va y avoir plusieurs cadavres, voire un effarouchement de tout le troupeau, et on a vu ça plusieurs fois, malheureusement, tout un troupeau versé dans un précipice avec 200 cadavres, c'est arrivé, ou 150 cadavres. Alors, le loup ayant provoqué le départ de l'effarouchement, si l'on peut dire, c'est imputé au loup. Le troupeau, enfin, les cadavres vont être indemnisés par l'État à hauteur du nombre de cadavres, même s'il n'y a qu'un cadavre au départ qui a été tué par le loup. Mais généralement, c'est que pour se nourrir. Et il mange. Alors, quand on voit les photos, puisqu'on avait un système de loups qui était équipé d'émetteurs, on les avait capturés dans les Alpes-Maritimes, et du coup, ça nous permettait. On mettait un rythme, ça fait des bips si vous voulez, toutes les 3 heures la nuit. Alors, toutes les heures plutôt la nuit, et le jour chaque 3 heures. Alors, la nuit, toutes les heures, on a un bip. Donc, si on a un bip toujours au même endroit, sur la carte, ça, on le fait, c'est par GPS, hein, donc c'est par satellite. Si on a toujours le loup qui est resté au même endroit, c'est qu'il y a une forte probabilité qu'il est en train de consommer sa proie. Donc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là. Si le loup s'est dispersé, si un bip est là, puis après le bip, donc c'est que le loup est parti toutes les heures. Voilà, c'est notre système pour économiser des piles, si vous voulez, pour que ça dure plus longtemps, que ça dure 6 mois. On avait mis en place ce système où on n'avait que des bips, une localisation toutes les heures la nuit et toutes les 3 heures le jour. On peut programmer comme on veut. Et donc quand on va sur ces sites-là, où on voit que le loup est resté pendant plusieurs heures, c'est très très étonnant. Un mouflon qui fait 20-30 kilos, des fois il ne reste plus que les cornes. On ne trouve même pas un autre os, rien. Les os ont été broyés, disparus. Mais c'est phénoménal ce qui se passe. C'est pas tout le temps. Hein. Des fois, on trouve pas mal de cadavres, enfin partiellement consommés, mais c'est le loup arrive à consommer même les os. C'est fou hein, ce qu'il consomme.
Oui, moi, je voudrais savoir quelles sont les raisons, vraiment, différentes raisons pour qu'on protège cet animal.
Alors les raisons, c'est pourquoi on protège la tour Eiffel, pourquoi on protège les baleines, pourquoi on protège les éléphants en Afrique, pourquoi on protège le loup, pourquoi on protège... Ben voilà, il y a des notions à la fois esthétiques pour certains. Certains écolos voient que c'est quand même quelque chose d'esthétique. Il y a un certain équilibre, il est aussi décontamine d'une partie des pollutions de cadavres. Il y a des intérêts de dire est-ce que la norme de départ, ce qui a mis un peu la philosophie de la protection de la nature est issue d'un parlementaire norvégien, Brunsvik, il s'appelait, je pense qu'il est décédé dans les années 60, qui disait que la responsabilité de l'humanité, c'était de léguer à la Terre les espèces telles que nous les avions connues. Pas celles que nous avions, mais telles que nous les avions connues. Le loup fait partie de ce que nous avons connu, et cette philosophie-là, j'allais dire, a été reprise sous diverses formes pour faire évoluer l'écologie. Je parle de l'écologie scientifique, moi, là. Je ne parle pas de l'écologie politique, qui est parfois un peu différente, même beaucoup, des fois. Donc l'écologie qui est de dire qu'il faut que la nature retrouve un peu l'équilibre, suppose qu'il y ait vous avez dû voir des schémas de pyramides de consommation où en bas vous avez l'herbe, l'herbe est mangée par la vache est mangée par l'homme ou par un prédateur, puis il y a, etc., jusqu'à un super prédateur. Donc ça c'est un peu un schéma qui montre qu'il faut un équilibre dans toute la nature avec un super prédateur, donc que ce soit le loup, l'ours, le lynx. Voilà, donc est-ce qu'il faut décapiter et puis après les aspects esthétiques, c'est vrai que c'est un autre monde, c'est peut-être, ça relève plus peut-être d'une écologie politique dans ce cas-là, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais...
Il y avait Maintenant, j'avais deux questions. Quand il y a les expertises qui sont faites sur des attaques, quel est le pourcentage qui est attribué à un loup et le pourcentage attribué à des chiens errants sur les...
Alors, j'ai pas en tête les pourcentages, je dirais qu'il y a... Disons que nous, en tout cas, on ne raisonne pas en pourcentage. Je ne sais pas, on n'a jamais fait ça. De mémoire, on n'a jamais fait le pourcentage entre les deux. Il faut savoir que lorsqu'il y a des doutes malgré tout, il faut que le doute bénéficie à l'éleveur. Il faut que l'intérêt économique de l'éleveur ne soit pas mis en jeu. Et donc ça, ce n'est pas nous qui décidons. On dit au préfet, pour nous, on ne sait pas si c'est du loup ou pas. Mais après, à vous de décider, parce que l'État peut aussi permettre à l'éleveur, puisqu'il y a un doute, de pouvoir être indemnisé sur la base du loup, comme si c'était certain. Voilà. Donc, mais en pourcentage, je suis incapable de dire ce qu'il y a. Je ne sais pas, au niveau d'un cas comme la Lozère, est-ce qu'il y a...
Alors, c'est effectivement, là, les données en 2013, les participants à une formation, là, ils nous avaient donné des chiffres qui étaient assez parlants. Sur le département de la Lozère pour l'année 2013, les 70% des indemnisations avaient été obtenues sur le concept de loup non exclu.
Voilà.
Pas loup avéré, loup non exclu.
Voilà.
Alors, la question avait été posée par quelques camarades qui participaient à la formation, si cette évaluation de loup non exclu n'était pas quelque part contre-productive. Et on nous a répondu qu'effectivement, c'était parfois quelque chose de politique et qu'il fallait composer avec ça. Et nous, par rapport aux doutes qui profitent, oui, bien sûr, à l'éleveur.
Nous, quand on fait après, on a besoin de ces chiffres-là, du nombre de proies pour comparer d'une année, enfin de proies, quand je dis proies, ça peut être mouton, mais ça peut être aussi animaux sauvages. On a besoin de savoir d'une façon exclusive si c'est du loup ou pas. Donc, quand on met loup avéré, c'est vraiment, on est sûr que c'est du loup. Quand c'est loup non exclu, c'est que les indices ne sont pas totalement certains, mais du coup, on laisse au préfet la possibilité d'indemniser malgré tout. Voilà, ça c'est. Mais après, en pourcentage, je ne les connais pas.
Et vous dites aussi loup exclu.
Oui. Oui, on peut dire des fois renard, on peut dire chien domestique, parce que des fois on a des photos qui montrent, qui sont vraiment parlantes. Oui, oui, ça nous arrive. Oui, oui. Une seconde question, elle disait, non ?
C'est pour savoir comment ça se passait dans les pays voisins au niveau de la cohabitation entre les éleveurs et la présence du loup ?
Alors, ça dépend des pays, mais.
En Italie.
En Italie, étonnamment, ils ont du loup. Ils n'ont jamais eu d'absence de loup. Hein, les cartes là attestent qu'il y a toujours eu du loup. Et il est très bien accepté, ce qui est très très étonnant. Il y a eu des missions effectuées par les syndicats agricoles, justement en Italie, en se disant, on va voir comment ils réagissent. Et ils ont été extrêmement surpris de voir que finalement, avec le système d'indemnisation mis en place par l'État italien, il y avait une bonne tolérance pour tous les grands prédateurs, disons, que ce soit le loup ou l'ours, le lynx, je ne crois pas qu'il y en ait dans les Abruzzes. Mais il y a eu des missions où finalement ils se sont rendus compte qu'il y avait une acceptation. En Espagne, le peu que j'en sache, c'est de toute façon, en Espagne, c'est complètement à l'ouest, hein, c'est limite avec le Portugal. Et puis toute la province de Léon, enfin, et puis la chaîne cantabrique. Mais là, il y a un peu de tout, mais disons qu'il y a un fleuve qui s'appelle le Douro, et il y a deux réglementations en Espagne, une partie au nord du Douro et une partie au sud. Alors une, je les confonds des fois, donc je ne suis pas sûr de moi quand je dis... Il y a un côté où il y a absolument protection sans intervention possible et une autre où il y a intervention possible. Alors je crois que c'est le nord du Douro vers la chaîne cantabrique où ils ont la possibilité d'intervenir parce que j'ai mémoire que j'avais fait une mission là-bas et du côté de Léon, ils avaient tué une meute de 11. Il y avait des adultes, il y avait des subadultes et il y avait une reproduction de l'année. 11 loups ont été tués, donc ça veut dire que je pense que c'est au nord où il y a des possibilités d'intervention. Mais pas comme nous en France. Ce n'est pas le même système d'intervention, puisqu'eux s'autorisent à tuer une meute entière. que nous, on ne fait pas en France.
Autre question.
C'était la même, en fait. C'était par rapport à l'acceptation de nos voisins.
Et ça s'explique un peu en Italie par le fait que le loup a toujours été présent. Ça a été évoqué par l'un d'entre vous, je ne me souviens plus lequel, le fait que les troupeaux... le fait qu'en France, on n'a plus eu pratiquement plus d'ours dans les Pyrénées et le loup avait disparu. Du coup, j'allais dire, au niveau de l'élevage, l'habitude de garder le troupeau, de le regrouper, de ne plus le traire aussi, de laisser les animaux en liberté, ça s'est perdu il y a 50, 80 ans, disons, par la plupart des éleveurs. Revenir à un système agricole où il faut surveiller le troupeau, le remettre dans des parcs la nuit et tout ça, c'est du boulot, c'est du temps, et le temps c'est de l'argent. Pour l'éleveur, ça devient difficile de supporter économiquement. Ça change complètement à fois les habitudes et ça revient cher. Donc voilà, et du coup c'est difficile d'imposer à l'agriculture de remettre en place ce type de pratique, il faut être honnête.
Mais je ne comprends pas, vous dites que ça revient cher et tout à l'heure vous avez dit que c'était l'État qui leur finançait ça.
Mais d'une façon ou d'une autre, ça revient cher.
Ça revient cher.
Pour l'éleveur, de fait, il est indemnisé, mais l'indemnisation, ça remplace pas. Il n'élève pas ses moutons pour partir sous la dent du loup. Et donc, quelque part...
Les enclos, les patous et tout ça, ils sont
financés. C'est finançable. Oui, c'est finançable. Donc, économiquement, avec le système mis en place, c'est du neutre, certainement pour lui. En contrepartie, le stress... son emploi du temps est complètement bouleversé, quelque part il n'est pas sûr qu'il soit gagnant, hein. C'est pas sûr en termes d'argent, il peut être au même revenu, mais en termes de stress, d'ennui, de changement d'habitude, je suis désolé, il faut reconnaître que là ils ont une perte sèche, c'est clair, il faut être honnête là-dessus.
Hop, il y a Monsieur, ça fait un moment.
Oui. Ma belle-mère m'a souvent raconté que quand elle était petite, elle a été suivie par un loup pendant plusieurs minutes. Alors, quelle est l'attitude du loup face à l'homme?
Voilà,
que ce soit de façon fortuite ou que ce soit parce que l'homme le cherche.
Alors, jusqu'à présent, et jusqu'à preuve du contraire, en France, on n'a jamais eu de cas de figure d'attaque de loup sur l'homme. En Italie non plus, que je sache, en Espagne non plus. Les seuls cas connus, alors bon, je ne parle pas de la Sibérie et autres, j'ai déjà un peu évoqué cet aspect où des meutes se regroupent à l'hiver, il y a des problèmes alimentaires et où là il y a, semble-t-il, eu des cas de mortalité par de grosses meutes. Bon, vous avez vu sûrement le film là, au Moyen-Âge, je ne me souviens plus maintenant le titre.
Le pacte des loups.
Oui, peut-être, le pacte des loups, où il y avait eu des attaques. Donc, que je sache, c'est du temps de la Yougoslavie, où des hivers vraiment très, très, très durs, et avec des enneigements très forts, où là, des meutes sont rentrées dans des villages, et où ont essayé de capturer des personnes isolées. C'est les seuls cas, à ma connaissance, je dis bien, en Europe occidentale, dirons-nous, où il y a eu des attaques sur hommes, de morts, je n'en ai jamais entendu parler.
Il y a deux films, excusez-moi, il y a le pacte des loups, le territoire des loups.
Mais moi, c'est le pacte des loups.
Il y en a deux ou...
Il semble qu'il y ait eu peut-être au Moyen-Âge. Alors, contrairement à ce que je viens de dire, vous avez un livre, là, qui dénombre, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais si quelqu'un l'achète et le lit, va parler de 3000 morts dues aux loups du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Un certain monsieur Morisseau, je crois le nom. Bon, il faut relire bien attentivement ce qu'il appelle attaque de loup dans son livre. C'est très tendancieux. C'est pourtant un scientifique de l'université de Caen, si je me souviens bien. Et il y a quand même, bon, il peut y en avoir qui sont des attaques donc au Moyen-Âge. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a beaucoup où la précision n'est pas indiquée. Il faut savoir également qu'à l'époque, au Moyen-Âge et autres, lorsqu'on avait des meurtres, entre guillemets, ou des disparitions d'enfants ou de, même d'adultes, il était facile de dire c'est le loup qui a tué ou autre. Alors, il faut faire la part des choses. 3000, nous, en tous les cas, on est assez sceptiques sur, sur l'approche faite par ce monsieur Morisseau.
Il y a Gonzalo qui fait.
Moi, juste, je voulais compléter par rapport à la gestion du loup sur d'autres pays. Je randonne assez régulièrement dans le nord de l'Espagne avec des groupes, donc, notamment en Cantabrie et dans les Asturies, où là, on a un système d'agropastoralisme tel qu'il était chez nous il y a 60 ou 100 ans. Et effectivement, en discutant avec les gars, c'est vrai qu'ils ont une approche complètement différente de la nôtre, c'est-à-dire que on a des troupeaux de chèvres, des troupeaux de chevaux en transhumance, des vaches, etc., avec un système qui ressemble un petit peu au système des burons sur l'Aubrac. Mais dans cette partie-là, pour eux, c'est impensable que l'homme ne soit pas présent au milieu du troupeau. Ils n'ont pas perdu le lien agro-pastoral avec le troupeau. Et du coup, le loup a toujours fait partie du paysage, a toujours fait partie du prédateur contre lequel on se mobilise. On n'y fait effectivement pas de cadeau. Mais bon, il est là et la prédation n'est pas vraiment acceptée. Mais je veux dire, on fait avec. Et il n'y a pas le côté passionnel. Il n'y a pas le côté passionnel qu'on a chez nous. Et ça, c'est assez flagrant. J'ai constaté depuis pas mal de temps. Et bon, les gars, voilà, ils sont là. Alors, bien sûr, ils ont des chiens, souvent des bâtards avec des colliers à pointe comme ça, qui sont dressés à l'attaque et qui sont relativement efficaces. La présence de l'homme, depuis tout le temps, au milieu du troupeau, dissuade un petit peu le prédateur. Et puis après, ils ont des systèmes de protection semblables aux nôtres, avec des enclos électriques ou des palissades en bois, où ils ramassent leur troupeau. Et là, du coup, ce qu'ils disent, c'est que la prédation, elle existe, ils s'en passeraient bien, mais elle est supportable. Mais effectivement, ils n'ont jamais perdu le lien agro-pastoral.
Merci de la précision.
Moi, j'avais une précision juste par rapport à la peur du loup, que j'aimerais que vous confirmiez, parce que je ne suis pas sûre. Moi, on m'avait dit que la peur du loup qu'on donne aux enfants, ou qui est dans les livres, elle vient du fait que le loup avait, à un moment donné, mangé des cadavres suite à une épidémie. Il n'a jamais fait de mal à quelqu'un de vivant, mais qu'il avait mangé, consommé des cadavres, à un moment donné.
Ça, je n'ai pas entendu parler de ça.
C'est à partir de là que les gens ont peur des loups, en fait.
Ça peut être un vrai.
Je voulais poser une question. Est-ce que tu ne penses pas que... tu as dit tout à l'heure que les troupeaux se regroupaient, les meutes de loups se regroupaient lors des hivers qui étaient, et il y a des légendes dans les Alpes quand même qui parlent d'une 50 à 60 loups qui auraient attaqué des fermes. Et ces fermes, effectivement, dans les Alpes, ces fermes sont très anciennes, mais elles sont entourées de murs avec des meurtrières. Et on demande aux gens, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est des meurtrières à loups. Donc, et ils disaient, parce qu'autrefois, les loups venaient par en grande masse et attaquaient ces fermes pour... Est-ce que tu penses qu'il y a, entre la légende et la réalité, puisque c'était avant les années 30, est-ce qu'il n'y avait pas énormément de loups en France ? Et est-ce que ces légendes qui nous paraissent maintenant des légendes, eh ben, avaient quand même...
Alors, c'est pas des légendes, ça c'est sûr, ça a existé. Donc le fait de se protéger avec des meurtrières pour tirer sur le loup, c'est avéré. De là à dire qu'il y avait regroupement de meutes et qu'il y ait 50 loups autour de la ferme, ça on n'y était pas. Donc moi je ne serais pas aussi affirmatif. Même une meute qui rôde autour d'un troupeau et autour d'une ferme, il y a de quoi avoir peur. N'importe qui aurait peur si le loup est menaçant. Hein. Donc le système de défense est logique. Mais ça ne veut pas dire que pour autant il y avait 50 loups autour. Voilà. Oui.
Du fait qu'il y a 200-250 ans, si jamais un loup s'est attaqué à un troupeau de moutons d'un berger dans les Alpes, ça pourrait détruire l'existence économique de cette famille. Alors, qu'ils se sont protégés contre le loup, on le comprend bien. Aujourd'hui, même si le loup prélève une dizaine de brebis d'un troupeau, c'est pas le... on n'est pas dans le même cas de figure. Hein. Ça ne veut pas dire que le loup s'est attaqué aux hommes. C'est, mais pour un petit paysan dans les Alpes, 10 loups qui s'attaquent à son troupeau, ça pourrait être la fin de son existence économique. Parce qu'ils n'avaient rien d'autre.
Oui, moi je me demandais que devient la meute si on élimine le mâle dominant ou la femelle dominante.
En ce cas, le figure s'est passé plusieurs fois. Et c'est lorsque le mâle ou la femelle alpha sont tués, puisqu'il y a des prélèvements, hein, ça a été le cas sur le massif du Taillefer en 2014. Du coup, on a eu une dispersion de la meute complète. C'est-à-dire que on a eu un individu au moins a été retrouvé du côté de, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, à Bourdoisan, ça fait un vol d'oiseau à 20 km à l'est. Une autre est partie vers la station de ski de Champs-Rousses, qui est à 10 km au nord. Après, on en avait d'autres qui étaient pratiquement à Grenoble. Hein, juste, il a été fait en photo et justement, celle qui vient de me poser des questions l'a vue, à côté du Riage. Voilà, donc ça éclate la meute et on a eu plusieurs cas de figure comme ça où le fait de tirer l'un des deux partenaires alpha fait éclater la meute. Et alors, on supposait que les jeunes n'arrivaient pas à survivre. Alors c'est vrai que ça limite la survie des jeunes. Ceci dit, on a retrouvé un peu tous les individus, parce que génétiquement, on avait identifié un peu tous, et on se rend compte que même s'ils sont partis à droite, à gauche, on les retrouve après dans d'autres meutes. Ils ont réussi à réintégrer d'autres meutes. Par contre, sur le massif, sur le territoire où la meute était établie, il a fallu, j'ai plus en tête le chiffre, mais de 2004, je crois, 2008, on n'a pas eu de meute qui se soit réinstallée. Donc ça a été un vide qui s'est créé, soit parce que le territoire avait été tellement marqué, les autres en périphérie avaient crainte de revenir là. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça a été vraiment une dislocation sur l'aspect meute, mais pas sur l'aspect effectif, où il y a eu un individu de tué, et pas davantage.
Comment on explique la diminution, puis la réapparition?
Alors en fait, disparition vers 1900, ça a été le même cas en France, c'est que il n'y avait pas de loi de protection. Donc on pouvait tuer le loup très librement jusqu'en 1964 ou 70. Ils ont pu tuer le loup en France, un peu partout, c'était libre. Donc la population de loups a diminué. Il y a un autre phénomène qui s'est passé, c'est qu'avec les deux guerres mondiales que nous avons connues dans les pays occidentaux, les populations d'ongulés sauvages, notamment chevreuils, cerfs, sangliers, étaient en chute complète. Il n'y avait pratiquement plus de proies sauvages. Il y avait des troupeaux domestiques, certes, mais les troupeaux étaient gardés, ça a été évoqué, ils étaient gardés. Du coup, l'accès à la nourriture pour ces meutes de loups a été très très difficile jusqu'en 70, quoi, en gros. Hein. Donc là, dans tous les pays européens, ça a été la chute libre pour tous les grands prédateurs. L'ours, le loup, le lynx avaient pratiquement disparu de la plupart des pays. À partir du moment où, après-guerre, on a laissé le monde de la chasse avec les créations du ministère de l'Environnement. Et il faut savoir que le ministère de l'Environnement en France n'a été créé qu'en 72. Avant, c'était l'agriculture qui s'en occupait. Et du coup, il y a eu une gestion après-guerre de protection des ongulés sauvages, cerfs, chevreuils, avec des créations de nouvelles populations, des introductions de cerfs. Dans l'Aurac, c'était le cas, hein, on a réintroduit du cerf. Le sanglier, je ne sais pas si vous avez été dans des milieux ici. Moi, je me souviens, mon grand-père qui était chasseur, il ne voyait jamais un sanglier. C'était une fois chaque 10 ans, on voyait un sanglier. Au jour d'aujourd'hui, du sanglier, il y en a un peu partout. Chevreuil, c'est pareil. Donc on a eu un accroissement un peu partout en France et en Europe du nombre de proies sauvages. Du coup, les prédateurs, à partir de 73, ben, ils ont eu de quoi manger, et ils ont eu de quoi proliférer. Et du coup, on a l'alimentation par les troupeaux sauvages qui est revenue. Ils en ont profité, les prédateurs. Et ça a des répercussions sur l'élevage après domestique. Il faut savoir qu'un loup est capable de tuer un veau quand même. Hein. On a eu des cas dans la Chartreuse, du côté ouest de la Chartreuse, où des loups s'étaient spécialisés sur les veaux. Et en 2000, j'ai plus l'année en tête. Ils tuaient des veaux donc, et des génisses. Voilà, donc il a la capacité. Hein. Dans l'Aubrac, peut-être un jour ou l'autre, on peut avoir des attaques. Je ne sais pas s'il y en a eu déjà ou pas.
Il y a eu un cas douteux du côté du prêtre sur la partie vers le col de Bonapromme. Un cas douteux.
Oui, ça ne m'étonne pas. Ils ont cette capacité.
Ouais. Mais bon, ça n'a pas été avéré, mais c'est tout à fait
possible. Toutes les autres attaques sur les vaches sont avérées chiens. Il y a un cas douteux. Tous les autres... Ici, dans l'Aveyron, il y avait une carte dans Midi Libre il y a quelques semaines.
C'est pas possible. La source de la carte, quand même.
ma question, c'était par rapport au cadre de la répartition du loup donc en Italie avec les époques. Ce qui est étonnant, c'est que si je ne dis pas de bêtises, au début, donc vers 1900, il y avait des loups à peu près partout en Italie, mais pas sur la partie... nord-ouest, donc la partie des Alpes. Et on voit qu'actuellement, il y a deux points, mais c'est vraiment peu par rapport à l'ensemble de l'Italie.
Oui.
Ça, c'est étonnant, parce qu'on entend parler du loup dans les Alpes, dans les Pyrénées, oui. Enfin, dans les zones montagneuses, et comme quoi...
Alors, c'est vrai qu'on n'a pas les données au-delà de 92. C'est des publications italiennes qu'on a recueillies, là. Ce que l'on sait en tous les cas, c'est qu'une partie du nord de l'Italie, le nord du bassin du fleuve de Pau, le loup est en train de recoloniser. Alors, je n'ai pas la donnée italienne qui correspond, mais j'ai la donnée suisse, où la Suisse a donc connu une expansion aussi du loup en même temps que nous, à peu près. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, les premiers loups ont été tués, j'ai donné l'année, je ne m'en souviens plus, en Suisse. Mais sur le Valais, sur le canton de Vaud, on a du loup. Le problème, c'est qu'eux ne sont pas dans la communauté européenne. Il ne faut pas oublier ça. Ils ne font pas partie de l'Union européenne. Donc, ils n'ont pas l'équivalent de notre directive Habitat à mettre en œuvre. Eux, ils ne dépendent que de la convention de Berne, qui est antérieure. Et du coup, ils s'autorisent... à ne pas faire, alors que Berne est en Suisse, mais bon, ils s'autorisent à abattre tout ce qui bouge comme loup chez eux en Suisse. Ce qui veut dire que jusqu'à ce que j'arrête moi de travailler, jusqu'en 2013, on n'a aucune meute avérée du côté suisse. Dès qu'il y avait un loup, il était abattu. Le canton du Valais était champion, et un député du Valais avait même un loup dans son bureau. C'était un peu de la provocation par rapport aux écolos. Enfin bref. Et eux ont aussi comme argument de dire qu'ils ont la fameuse viande des grisons. Alors c'est du veau, c'est de la vache, certes. Mais ils ont peur, disent-ils, que cette viande dépérisse, enfin s'abîme et tout. Et du coup, il faut abattre tous les loups. Alors si du côté suisse, il y a un barrage avéré, ça veut dire que quand même il y a des meutes du côté italien, très certainement, et qu'autour de, si vous voulez, au nord des lacs de Combes, etc., enfin, tous ces grands lacs, c'est quasiment sûr, jusqu'aux Dolomites, c'est quasiment sûr qu'il y a du loup. D'autant qu'il y a du loup du côté slovène aussi. Hein.
Ah ouais, c'est
il y en a. Il y en a. Ouais. Pour avoir été en Slovénie, pour ramener des fameux ours dans les Pyrénées, j'ai trouvé un cadavre de loup là-bas. Donc il y a du loup chez eux. Pas de problème. Et cela, par contre, c'est pas du loup des Abruzzes, c'est du loup des Balkans qui vient et qui remonte jusqu'en Hongrie, Carpates aussi, et donc c'est pas les mêmes.
Et ces types de loups seraient arrivés en France ou pas ?
Non.
Pas forcément.
Non. C'est comme les loups de la chaîne cantabrique, donc ce dont il parlait aussi. Ils sont vraiment à l'ouest. On ne sait pas pourquoi, ou bien il y a des problèmes de saturnisme avérés avec du plomb de chasse peut-être du côté du Pays Basque, mais en tous les cas c'est très 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 étonnant, cette population de loups qui est relativement florissante, c'est comme les ours aussi, ne dépasse jamais le Pays Basque espagnol.
Ils appellent,
pourquoi
ils appellent ça la barrière de feu.
Chacun peut dire. Mais non, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit que le loup des Abruzzes a la capacité de faire 800 km et que le loup de la chaîne cantabrique, qui était plus florissant encore il y a 40 ans, n'est pas traversé dans les Pyrénées. Ça, c'est une chose, moi, je ne me l'explique pas. J'ai pas d'explication. Je ne peux pas dire pourquoi. Mais la capacité existe dans l'espèce, mais en réalité, on ne l'a pas. Alors, peut-être qu'un jour ou l'autre, on va trouver dans la population qui est en train de s'installer malgré tout dans les Pyrénées, peut-être qu'on trouvera des hybrides avec du loup cantabrique. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais ça peut arriver.
Parce que le loup qui est dans les PO, c'est le loup italien avéré.
Oui, du loup des Abruzzes. Ça, on a, au niveau génétique, on est sûr. On n'a pas de cadavres, mais on a des crottes. Et on a même l'identité de certains qui sont nés dans le Mercantour. Un est né dans le Mercantour et l'autre dans les Hautes-Alpes. On en a au moins deux de mémoire qui sont venus jusque dans les Pyrénées-Orientales. Ils ont traversé. Donc sûr, ils sont passés au moins Hérault ou Aveyron déjà dans un temps assez lointain. Ça, c'est certain. C'est certain. Ils ne volent pas.
Il y avait monsieur. Oui.
Est-ce que le loup s'apprivoise ?
Oui. Oui. Mais je le déconseille très fortement. Parce que c'est comme les chiens, les huskies ou autres, où ils peuvent avoir un instinct sauvage qui revient à l'état adulte. Et c'est extrêmement dangereux d'avoir un chien comme ça, enfin un loup, chez soi. En toute honnêteté. Hein. Moi, en tous les cas, je dis, c'est vraiment mettre sa vie en péril ou la vie de ses enfants ou du voisin en péril. Ça, c'est clair, net. On ne sait pas la réaction d'un loup même élevé. Il faut qu'il soit bien nourri, certes, et tout ce qu'on veut, mais leur instinct sauvage, moi, en tous les cas, je n'en prendrai jamais chez moi, ça, c'est certain.
Vous parlez du loup, mais les chiens qui sortent du loup, justement, je ne dis pas le chien loup. Mais le chien comme le Husky, le berger blanc, le Tcheco,
tout ils ça. Ils sont du sang de loup.
Ils sont du sang de loup. J'en ai une raison, donc je sais ce que je parle. Donc ils ont le sang, l'esteg, la mâchoire, pour les côtes en moins, parce que il a les côtes en plus. Voilà. Mais ce n'est pas n'importe qui qu'on peut avoir. Il faut avoir un peu d'expérience. Dans ce domaine-là, pour justement posséder un chien comme ça, parce que ça marche, ça réagit, c'est peureux, les chiens qui sont assez peureux, donc, et ça peut manger comme nous, 2 kilos, sans problème, et pendant 2 jours, moi je fais l'expérience avec le mien, après pendant 2 jours, il ne mange pas. C'est vrai que c'est pas n'importe quel chien à porter de...
Il faut être un bon dresseur. Hein.
Je suis.
Pour le moins.
Voilà. Éducateur.
Pardon ?
Éducateur. Éducateur, on ne dresse pas.
La question que je me pose, c'est par rapport à la traversée du Sillon rhodanien. C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre. Bon, je me dis, voilà, je suis un loup, j'en ai assez du Mercantour, il m'agace tout, j'ai envie de vivre ma vie de loup tranquille. Je vais traverser, il y a une autoroute, il y a des ponts, il y a des trains, il y a des trucs, il y a des villes. Tous les ponts sont sur des villes, il y a un fleuve, etc. Je me dis, c'est pas par là que je vais aller. Et pourtant. Donc c'est des animaux solitaires qui traversent ou c'est des meutes
Non, c'est pas des meutes. C'est des animaux.
Là, c'est
au moment de la dispersion. Ce sont des jeunes, enfin aux subadultes, quoi.
Ouais.
Et mais ils traversent.
C'est bizarre comme choix. Enfin, je veux dire.
Est-ce qu'ils traversent des fleuves à la nage
Oui. Ils peuvent traverser sur un pont. Très, très bon. C'est la loi du moindre effort, mais ils sont excellents nageurs, pas de problème.
Absolument.
Non, il y a pas. Disons qu'il n'y a pas d'obstacle majeur. Il faudrait que tout soit barricadé avec des grillages. C'est assez impressionnant la capacité qu'ils ont de traverser beaucoup de choses. Hein, oui. C'est pas un obstacle pour eux. Ni les autoroutes, ni les. Mais les autoroutes avec les grillages, je pense pas que. Mais il y a tellement de ponts, de. de passage par-dessus, par-dessous. Des, on fait. À une époque, moi j'ai travaillé aussi sur la faune en plaine, pour les autoroutes, on fait des passages normalement tout, à des distances de 2, 3, 4 km. Il faut qu'il y ait un passage faune en capacité pour la faune de traverser, que ce soit en tunnel, que ce soit par-dessus, soit en élargissant. Moi je m'entendais bien avec les gars dans le sud-ouest de la France, à l'époque où je travaillais dans les Pyrénées. Ce qu'ils aimaient bien de ma part, c'est que je leur proposais d'élargir les crues des ruisseaux. Au lieu de considérer les crues centenaires, je leur disais, mettez-moi des crues millénaires avec des petits passages surélevés pour que la faune puisse passer. Alors ils disaient, ça va nous coûter que 100 000 euros au lieu de 3 ou 4 millions. Tout un arsenal de ponts ou de tunnels qui leur coûtait les yeux de la tête. Mais élargir un passage et passer, leur faire prendre en compte des crues qui sont quasiment impossibles à, disons, à prévoir, quoi, hein. Et du coup, ils surdimensionnent les ruisseaux très facilement. Voilà, ça, c'est des choses très simples. Et du coup, loups, enfin toute la faune, hein, jusqu'à des lapins, des renards, ce qu'on veut, du lièvre, des hérissons, tout ce qu'on veut peut traverser comme ça. Oui.
Il y a eu des études sur l'intelligence des loups.
Sûrement. C'est des animaux extrêmement intelligents, ça c'est une évidence. Mais c'est vrai que ce n'est pas un domaine sur lequel j'ai travaillé. Donc est-ce qu'il y a besoin vraiment de faire des études pour se rendre compte de la façon dont ils déjouent les pièges et tout, hein.
D'ailleurs, on parle de l'échec que les agriculteurs connaissent bien, qui est un loup, un petit peu. Ça, c'est le bordel. Le bordel est tout à l'heure.
Oui, oui.
On a même préagi comme.
Toute la race canine est très intelligente. Tout à fait. C'est
une
très. J'ai juste un problème à imaginer. Tu dis, ils partent seuls de la meute, parce qu'il y en a trop. Ils partent l'un à l'un. Comment ils retrouvent une autre meute?
Non, ils vont former une autre meute. Lorsqu'ils traversent, lorsqu'ils partent, ils vont pratiquement forcément, surtout maintenant en France, au début c'était peut-être pas le cas, mais maintenant ils vont traverser d'autres territoires. Donc ils vont être éjectés, mais en même temps qu'eux sont éjectés, il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait un jeune de leur âge qui doit aussi partir. Donc ils partent à plusieurs, quoi, deux, trois, voilà, c'est. Alors quelques-uns partent seuls, c'est évident, parce que celui qui a été vu dans le Cantal, là, il y a eu des photos, notamment depuis 106, si je me souviens bien, les premières photos, c'était un animal tout seul, celui-là, hein, pendant quelques temps, et puis il a fait la navette depuis 106 jusque, si je me souviens bien, vers le Mont-Lozère ou par là, hein, il faisait la navette, il a été vu tantôt dans le Cantal, tantôt en Lozère. Au niveau génétique, on avait la même trace, donc c'était bien le même individu. Là, celui-là, semble-t-il, a été seul pendant quelques temps. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a rejoint ou est-ce que c'est vraiment d'autres qui sont venus? J'ai plus en tête les données précises. Donc, mais ça, le départ seul, c'est classique, hein, de la meute. Et après, il va traverser une autre meute et là, ils vont se regrouper à deux, trois. Généralement, c'est comme ça.
Vous avez une question là-bas? Non, je me suis trompé.
Oui, par rapport au couple dominant, alpha, comment ça s'établit la hiérarchie? Au départ, il y a des combats ou c'est d'office?
Oui, oui. Non. Il y a généralement des combats. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'une femelle va partir avec un jeune loup, il n'est pas sûr, le jeune loup, de garder la même femelle. Parce que généralement, surtout si c'est dans une structure où il y a déjà plusieurs meutes, il va essayer de se mettre à un endroit où il n'y a personne, pour ne pas avoir de disputes, mais des jeunes loups, des meutes périphériques vont arriver. Là, généralement, il y a des combats entre jeunes loups. Et après, donc ça, le plus fort gagne, ça c'est clair. Mais après, il y a d'autres combats, lorsque notamment le mâle alpha vieillit, et là où il a encore à défendre son statut, il y a bagarre de nouveau avec de jeunes loups qui arrivent, soit qui sont célibataires parce que leur compagne est morte, soit qui veulent acquérir un nouveau territoire. C'est une vie de combat, hein. Généralement, les loups que l'on a qui sont tués et qu'on prend en autopsie, Il est rare qu'il n'ait pas des cicatrices, surtout au visage, au cou, au corps. Ils ont été mordus. C'est une vie de bagarre. Il ne faut pas croire que ce soit une vie très calme. Hein. Dans une meute, il y a beaucoup de bagarres. Hein. Ça, c'est clair. Rien que pour des histoires de hiérarchie interne, justement, on demandait tout à l'heure s'il y avait une répartition un peu des tâches. Je pense qu'il y a des tâches ou tout au moins des choses à faire et d'autres à ne pas faire. Et le couple alpha est vraiment très, très, très agressif pour faire régner de l'ordre. C'est vraiment eux qui décident de tout. Et tous les autres en pâtissent à un moment ou à un autre, hein, avec des morsures ou autre. Alors ça peut occasionner, de fait, quelques mortalités aussi chez les jeunes. Ça, je n'ai pas de cas documenté, mais c'est très possible.
Et les loups dans Paris, c'est pour quand?
Ah, mais ils y sont déjà, il y a une chanson qui le dit.
Les loups se prendraient dans Paris, et pas ici. C'est
pour ça que j'en
parle. Bon, le taux d'un s'il n'y a plus de questions, c'est pas qu'il en reste pas à poser, mais bon, là, à l'heure actuelle. Michel, on te remercie bien pour